Quoi de neuf doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Quoi de neuf doc.
Il existe plusieurs méthodes de contraception masculine, sauf qu'en général, les hommes ne les connaissent pas.
Ouais, moi avant le roman de couilles toulousain, je pensais que c'était un plaquage interdit au rugby.
Alors qu'il s'agit d'un dispositif thermique qui, en augmentant la température des testicules de 2 degrés, empêche la production de spermatozoïdes.
Autant dire que le réchauffement climatique va vite régler les problèmes de démographie.
Un extrait de Brout, les vidéos parodiques. Jonathan Marguin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin urologue au centre hospitalier de Fléria à Bourg-en-Bresse. Pendant l'été, le journal Libération publiait un appel à développer la contraception masculine. Il a été relayé et signé par des médecins hommes. Mais bon, on n'en a pas trop entendu parler. C'est vrai que quand on parle contraception, on pense tout de suite à la pilule, au stérilet et donc aux femmes. Et pourtant, des possibilités de contraception pour les hommes existent. Pourquoi, selon vous, on en entend si peu parler ?
Alors, finalement, quand on reprend un peu la contraception, ça a toujours été un traitement, enfin toujours, en tout cas, globalement, c'est un traitement qui a été mis en place pour les femmes et pour les prévenir de dommages physiques, psychiques, d'une grossesse non désirée. Et finalement, on se rend compte que la place de l'homme dans la charge contraceptive, elle est assez minoritaire, ou en tout cas, on a beaucoup de retard sur cette question-là. Alors pourquoi ? Il y a plusieurs éléments de réponse. Je pense qu'un des éléments, c'est déjà que la population générale est assez peu informée sur la possibilité d'une contraception masculine. Les hommes, mais aussi les femmes. Et par là même, la population médicale aussi n'est pas encore au top et au point sur ce problème-là.
Du coup, on va en parler aujourd'hui. Il existe des méthodes pour se contracepter. Je ne sais pas si on peut utiliser ce verbe quand on est un homme. Quelles sont ces méthodes ?
Alors, pour la contraception masculine, il y a 4 grands types de contraception. La première et la plus simple, la plus connue, c'est le préservatif. Alors, ça paraît un peu désuet de parler de préservatif, mais ça marche bien. C'est une bonne option de contraception. Et surtout, je pense qu'il faut le rappeler, ça reste le moyen de lutte, le seul moyen de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Ensuite, vous avez la méthode hormonale, qui est assez minoritaire en France. C'est des injections de testostérone, c'est des injections intramusculaires, donc un peu comme certains vaccins, qui se font de manière hebdomadaire et qu'on peut faire jusqu'à 18 mois, potentiellement renouvelable, mais en tout cas, c'est sur une durée limitée.
Sarah, est-ce qu'on a une idée de combien de personnes, ou des chiffres, de pourcentage de personnes qui utiliseraient cette forme de contraception ? Ça paraît lourd.
Oui, alors, ça paraît lourd. Et puis, l'injection fait un peu peur. Le côté hebdomadaire n'est pas toujours facile à mettre en place. Puis, il y a aussi la nécessité de faire intervenir une infirmière. Donc, oui, effectivement, ce n'est pas ce qui est plus facile à observer comme traitement. On n'a pas vraiment de chiffre exact, mais en tout cas, ça reste minoritaire. Moi, j'ai fait le test, je suis passé en pharmacie, j'ai passé des coups de fil à des amis médecins traitants, ils me disent qu'ils n'en prescrivent jamais. Et nous, urologues, on n'en prescrit jamais. Ensuite, il y a un troisième point qui est la méthode thermique, qui est très connue sous le terme de slip chauffant, ou dans l'extrait qu'on a entendu, le remonte-couille toulousain, parce que ça a été inventé par un urologue toulousain, qui est le professeur Mieuxet. Et le but, c'est d'augmenter la température au niveau des testicules, parce que la conformation des bourses n'est pas juste une coquetterie, hein, ça permet aux testicules d'être à une température inférieure. Et donc, si on remonte les testicules au niveau des canaux inguinaux, la température remonte et ça bloque la spermatogenèse, donc la fabrication de spermatozoïdes.
Et ça, c'est utilisé. Vous avez déjà des patients qui déjà croisé des patients qui utilisaient.
Non, j'ai pas de patients. J'ai pas de patients, ou en tout cas que je ne sais pas. Je ne connais pas de personnes qui utilisent ce moyen contraceptif. C'est assez anecdotique, mais en même temps, ça se fait. On ne peut pas acheter de slip chauffant. Il faut le fabriquer soi-même. Donc il y a des tutos pour les faire. C'est pas très compliqué. J'ai lu un bouquin là, qui disait qu'en gros, en France, il y a peut-être une centaine de personnes qui utilisent ce moyen contraceptif, donc c'est assez anecdotique.
Peu, ouais.
Mais voilà, c'est peut-être des choses qui vont être amenées à se développer. En parallèle de ça, dans la méthode contraceptive, il y avait aussi l'anneau Andrew Switch, qui est un anneau qu'on met à la base de la verge et qui vise justement à faire pareil, à faire remonter les testicules. Mais là encore, c'est un dispositif médical, donc il faut des études pour valider son utilisation. Et aujourd'hui, en France, on ne peut pas l'acheter depuis décembre 2021. Il a été retiré de la vente. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose non plus en méthode de contraception thermique. Et la dernière chose, c'est la vasectomie, qui est une technique chirurgicale, mais qui a une technique de contraception définitive, qui marche très bien, mais qui peut difficilement être généralisable à l'ensemble de la population masculine, puisque justement, c'est en principe définitif.
Alors oui, justement, là, sur ça, il y a plusieurs discours contradictoires. Moi, j'ai vu des informations comme quoi on pouvait revenir en arrière. Vous nous dites que c'est définitif. Est-ce que, déjà, vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, une vasectomie? Comment ça marche?
La vasectomie, le processus, il est très simple. On coupe un petit canal qui s'appelle le canal déférent et qui est la voie de cheminement des spermatozoïdes du testicule, là où ils sont synthétisés, à la prostate, là où ils sont stockés. Donc on coupe ce petit tuyau sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale en faisant une petite incision sur la bourse. Et une fois cette intervention faite, il y a toujours une éjaculation, mais il n'y a plus de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Alors, on dit que c'est définitif parce qu'une fois que vous avez coupé ce tuyau-là, il est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Pour cette raison-là, quand on voit les patients en consultation, on leur explique qu'il y a un délai de réflexion de 4 mois pour mûrir leur projet. Il y a aussi la possibilité de faire une cryoconservation de sperme, c'est-à-dire de faire un prélèvement de sperme qui est congelé et stocké au cas où les hommes aimeraient ensuite avoir une autre grossesse pour une raison X ou Y. Alors, on entend parfois dire qu'on peut revenir en arrière parce qu'il existe une intervention qui s'appelle la vaso-vasostomie, c'est-à-dire qu'on vient réanastomoser le canal qui a été coupé.
Recoller.
Ouais, exactement. Seulement, ça peut marcher. On dit que dans 50% des cas, alors 50% pour les plus optimistes, entre 30 et 50% des cas, on retrouve des spermatozoïdes dans le sperme après cette opération-là, mais ce n'est pas parce qu'il y a des spermatozoïdes dans le sperme qui sont toujours viables et potentiellement fécondants. Donc le principe de précaution, c'est de dire attention, c'est plus difficile de revenir en arrière après cette opération-là.
Quand on a préparé l'émission, on s'est appelé. Vous m'avez dit au téléphone que vous pratiquiez des vasectomies quasiment 3 ou 4 fois dans la semaine.
Oui.
C'est assez fréquent.
Alors, c'est assez fréquent et c'est de plus en plus fréquent. Alors, on fait souvent le parallèle entre ce qui se passe aux États-Unis, au Royaume-Uni et la France. On peut difficilement comparer les deux choses parce qu'en termes de contraception, on a presque 10 ans de retard par rapport aux États-Unis, par exemple, où la pilule a été créée en 57, et en France, la pilule elle a été mise en place en 67. Donc, on a déjà un petit peu de retard. Mais globalement, en France, on voit que les choses se démocratisent. La vasectomie devient de plus en plus fréquente. Et les derniers chiffres qu'on ait d'activité chirurgicale les plus exploitables, c'est 2019, parce qu'après, il y a eu le Covid, donc ça a un petit peu perturbé les choses. Mais en gros, on voit que, oui, il y a eu une vraie explosion de la demande de vasectomie en France. Et ça, c'est plutôt un point qui est rassurant.
Et c'est quelque chose qui se pratique en cabinet. On peut venir, on vient vous voir le matin et on ressort milieu d'après-midi. Ou c'est une grosse opération, on est immobilisé, ça fait mal.
Non.
Il y a plein de questions
autour de ça. Il faut vraiment dédramatiser la vasectomie. Alors, il y a vraiment un point qui est à repréciser, c'est les fameux 4 mois de délai de réflexion. C'est-à-dire que les gens viennent, on discute de leur projet de vasectomie et on les revoit quelques mois plus tard pour programmer à 4 mois le geste opératoire. C'est quand même un acte chirurgical, c'est-à-dire que c'est, à comparer, c'est un petit peu comme si vous alliez chez le dentiste. Hein. Il y a quand même un acte un petit peu invasif. Il y a une incision sur la bourse, il y a une anesthésie locale. C'est un geste qui dure, en règle générale, une quinzaine, une vingtaine de minutes. Nous, à l'hôpital de Fleuria, on le fait sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale. Ça dépend du choix du patient, bien sûr, et puis du choix du chirurgien. Et ça se fait en ambulatoire, c'est-à-dire que les gens viennent et rentrent à leur domicile le jour même. Et concernant les suites, ce n'est pas quelque chose de très douloureux. C'est endolori pendant quelques jours. Les patients le décrivent bien. Ils disent, bah oui, ça frotte quand je marche. Je sens qu'il s'est passé quelque chose. Mais les gens peuvent reprendre le travail et une vie normale assez rapidement.
Et qu'en est-il de l'activité sexuelle? Parce que c'est peut-être aussi ce qui inquiète les auditeurs.
Alors, il y a un truc aussi qui est vraiment à préciser. Vous faites bien de le souligner. Sur l'impact que le geste chirurgical peut avoir sur la sexualité, il n'y en a pas. Il n'y a pas de trouble de la libido, pas de trouble de l'érection, il n'y a pas de problème d'éjaculation, il n'y a pas de modification du sperme. Donc, côté sexualité, ça ne change rien. Concernant la reprise de l'activité sexuelle, moi je dis aux patients, vous reprenez les rapports sexuels quand vous voulez. Autrement dit, dès le lendemain de l'intervention, ça ne pose pas de problème. Par contre, il faut attendre 2 mois et demi à 3 mois après l'opération pour faire un spermogramme. Le spermogramme, c'est un recueil de sperme qu'on fait en laboratoire. Celui-ci est passé sous microscope et c'est le biologiste qui dit bah, « oui, effectivement, il n'y a plus de spermatozoïdes dans le sperme. À partir de ce moment-là, la contraception peut être arrêtée. Il n'y a plus de risque de rapport sexuel fécondant. »
On l'entendait dans l'extrait de Brout de manière comique. On l'a entendu dans les méthodes de contraception, cette notion de chauffer. Alors là, il parle de réchauffement climatique, mais on entend beaucoup d'informations sur la fertilité aujourd'hui des êtres humains, et notamment des hommes, en disant que les hommes sont peut-être moins fertiles qu'avant. Est-ce que ça, il y a des études là-dessus? Est-ce que c'est des choses que vous voyez, constatées? On a souvent l'impression que c'est de plus en plus difficile d'avoir des enfants aujourd'hui.
Alors, là, ça sort un petit peu de mon domaine de compétence parce que c'est plus du domaine de la procréation médicale assistée. Je ne pourrais pas vous répondre.
Oui. Vous ne constatez pas des patients qui viendraient vous voir sans être forcément bien orientés, qui se tournent vers vous en disant « voilà, j'y arrive pas à avoir un enfant. Est-ce que ça vient de mon appareil reproducteur à moi ?»
Non, nous, on a plutôt la demande inverse, c'est-à-dire « j'aimerais une méthode pour ne plus avoir d'enfant.
» Une autre question, on l'a dit, vous l'avez dit, et on le constate souvent dans cette émission, notre retard à nous, la médecine française, à notre médecine, par rapport à des pays comme les États-Unis, le Canada, comment vous l'expliquez-vous?
Déjà, historiquement, la pilule contraceptive, elle a été créée aux États-Unis en 1957, et il a fallu attendre 10 ans, c'est-à-dire 1967, c'est la loi Neuwirth, du nom du sénateur qui l'a fait passer, sous le général de Gaulle. Donc déjà, on voit bien qu'il y a 10 ans de retard par rapport aux États-Unis, comme on disait tout à l'heure. Et puis après, les dates d'après, c'est 1974, le remboursement de la pilule. Donc c'est quand même 7 ans après l'autorisation de prescription de la pilule en France. Et puis 1999, c'est la pilule du lendemain. Il y a eu aussi la période des années 80-85 avec le VIH qui a certes mis à l'avant-poste le rôle du préservatif, mais qui a un peu mis sous cloche tous les projets et les progrès en termes de contraception. Et après, il faut attendre 2001 pour que soit autorisée la vasectomie en France. Donc, si on reprend la chronologie, on voit bien que la contraception a été essentiellement une affaire de femmes pendant très longtemps. Et on se met progressivement à mettre de plus en plus en avant l'homme dans la charge contraceptive. Ça, c'est aussi en lien avec une évolution sociétale, je suppose. On est de plus en plus préoccupé par les périodes, les questions d'égalité homme-femme, de parité homme-femme. Et je pense que ça, c'est une des questions qui en découle. Alors, ça va progresser, il faut un peu du temps. Je pense qu'on est...
Dans les études de médecine, c'est abordé notamment cette question de la contraception masculine. Vous en avez parlé, vous, dans vos études?
Alors moi, j'ai eu des études très axées rapidement sur l'urologie, donc forcément, j'y ai été sensibilisé, mais dans le tronc commun, pas vraiment. Après, il y a la formation médicale continue, et c'est aussi notre rôle, nous, spécialistes, de maintenir le lien avec la médecine de ville, avec les médecins généralistes, pour les former et les sensibiliser à ça.
Alors concrètement, aujourd'hui, un auditeur a entendu l'émission, il a envie de passer par cette contraception. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il passe par son médecin généraliste, il vient directement vous voir à Fleria. Comment on procède?
Les deux sont possibles. Je pense que malgré tout, un bon réflexe, c'est d'en discuter avec son médecin traitant. Parce que ça reste quand même la personne de référence, qui connaît bien la personne, mais aussi le couple. Parce que il y a différents types de contraception. Il y a la contraception de couple, où là, vraiment, il peut y avoir une discussion sur, sur lesquels... enfin, sur à qui doit prendre en main la contraception. Et puis, il y a la contraception individuelle des gens célibataires. Alors là, c'est encore une question qui est différente. Et la vasectomie, ça s'applique peut-être pas forcément à ces cas-là. Mais le premier réflexe, c'est d'en discuter avec son médecin traitant. Et ensuite, on peut très bien venir directement à la consultation d'urologie pour prendre des informations sur une vasectomie. Si on n'a pas de médecin traitant, si le médecin traitant a refusé ou s'il est un peu difficile de joindre son médecin traitant.
Jonathan Marguin, merci à vous pour ces informations. Je rappelle que vous êtes urologue au centre hospitalier de Fléria à Bourg-en-Bresse. Quoi de neuf doc, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain. Quoi de neuf doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B.